Voilà un peu plus d'une semaine, donc Paris a été particulièrement bouleversé et j'étais très ému pendant les chants. Je trouvais qu'il y avait une foi particulière dans les chants, une ferveur différente. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe, mais ça nous rapproche de Dieu d'une certaine façon. On veut vraiment dire notre foi dans le Seigneur. On ne veut pas se laisser abattre, se laisser effrayer et on veut serrer les coudes. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être des années de guerre, ça c'est même quasiment certain. Vu l'état du Moyen-Orient qui est en morceaux, il y aura encore des guerres et des guerres. Il y aura des années de terreur avec les terroristes qui ne vont pas s'arrêter. Peut-être même le chaos. Et puis, l'apparition d'un gouvernement mondial pour résoudre tous les problèmes. Et puis, après ça, il va y avoir celui que la Bible appelle la bête, l'antéchrist, qui va se placer par la force à la tête de ce gouvernement et qui va vouloir exercer sa dictature satanique sur le monde. Mais si nous sommes au Seigneur, nous ne verrons pas l'antéchrist faire tout cela, parce que la Bible parle de l'enlèvement de l'Église, de tous ceux qui lui appartiennent. Certains parlent d'une troisième guerre mondiale qui commencerait au Moyen-Orient. Mais peu importe, nous entrons dans des temps difficiles. Et le Seigneur Jésus l'avait annoncé, les apôtres l'avaient annoncé pareil. Ils n'avaient pas dit que le monde allait aller en s'améliorant jusqu'au millénium et que ce serait de mieux en mieux. Il avait dit il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'éloignement de la vérité, il y aura les ténèbres, il y aura de plus en plus même des guerres, des bruits de guerre. Jésus l'avait annoncé et nous ne devons pas être étonnés. Les hommes qui ne regardent pas dans la Bible cherchent toutes sortes de solutions et de réponses. Il y a des politiciens qui disent il faut plus de sécurité, plus. Et bien sûr, il faut plus de sécurité, mais après, on sait où ça peut mener facilement à la dictature. Et puis il y a ceux qui sont dans la fuite en avant. Non, il faut pas plus de sécurité, il faut rester dans le plaisir. Amusons-nous jusqu'à la mort, tant pis si on nous tue, au moins on se sera bien amusé sur la terre. Il y a cet écrivain philosophe français qui s'appelle Robert Redeker. Peut-être vous vous souvenez de lui. En 2006, il avait publié une tribune dans le journal Le Figaro où il disait, donc ça fait 9 ans, il avait dit, nous devons nous préparer et résister à l'invasion islamiste dans notre pays où ils essayent de séparer les hommes et les femmes dans les piscines, vous savez, à cette époque-là, de mettre le niqab un peu partout. Il avait dit, il faut faire quelque chose, il ne faut pas se laisser avoir. Et il avait été honni par tout le monde. Le Figaro avait retiré sa tribune et avait fait une demande de pardon sur Al Jazeera. Je ne sais pas si vous imaginez le Figaro. Et lui, il a dû être mis sous protection policière pendant des mois. Il a été menacé de mort par une fatwa et sa vie a été complètement bouleversée par cette tribune qu'il a publiée. Et là, dans le dernier point, il a écrit un mot qui me semble très lucide. Nous prenons la vie pour un jardin d'enfants et nous la transformons en un parc d'attractions. Nous appelons l'Europe Euroland, comme si c'était Disneyland. Du fait de ce ludisme généralisé, nous sommes impuissants à nous représenter un ennemi réel et radical. Nous avons vécu comme si le monde était un jardin d'enfants où on pouvait s'amuser à tout. Nous ne sommes plus sérieux, mais les autres le sont. Et ce décalage éclaire notre incompréhension des djihadistes. Eux, ils ne jouent pas. Affirmer que leurs actes sont incompréhensibles et absurdes revient à les rabattre sur le nihilisme, le fait de nier la négation de tout. Or, c'est notre culture qui est devenue nihiliste, parce qu'elle fabrique désormais du vide, qui est vide de tout sens les réalités. Et ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est que c'est ce que l'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, le vide. Notre monde s'est rempli de vide, de loisirs, de consommation, et on a vécu comme si c'était ça la réalité, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est la mort, c'est l'amour, c'est les relations entre êtres humains, c'est ça la réalité. C'est le fait qu'on va mourir un jour, qu'il va y avoir un jugement, mais notre monde a vécu dans ce rêve Et aujourd'hui, on se réveille et c'est dur. Le réveil est difficile. Certains ne veulent même pas se réveiller. Le Nouveau Testament tout entier a été écrit dans des moments difficiles, justement. Il y avait l'Empire romain qui régnait. Là, il n'y avait même pas de démocratie. Vous ne choisissiez pas votre empereur. C'est lui qui décidait de tout. Il y avait la persécution des chrétiens. En permanence, les chrétiens étaient mal persécutés. On les traitait de sectes juives abominables. On les méprisait profondément. Ils avaient cet opprobre d'être chrétiens. On disait, ah oui, tu suis le Nazaréen, tu suis le Christ, tu es un chrétien. Le mot chrétien était déjà en lui-même une insulte. Et c'est utile justement de savoir que le Nouveau Testament a été écrit dans cette période-là de difficulté parce que les versets prennent tout leur sens maintenant. On se rend compte de l'utilité de la parole de Dieu dans des moments difficiles. Il y a encore aujourd'hui des chrétiens chinois ou vietnamiens ou indiens ou égyptiens ou libanais, etc., qui, à cause de la persécution qu'ils vivent tous les jours, en permanence, ont une foi d'un autre degré que la nôtre. Quand vous êtes persécuté, votre foi est d'un autre degré. Et il est temps que nous ne sommes pas encore vraiment persécutés. Si, on commence à l'être, puisqu'ils visent des églises, mais nous devons avoir cette foi plus réelle, plus profonde, qui fait face aux réalités. Jésus a annoncé qu'avant son retour en gloire, les hommes vivraient dans une sorte d'insouciance. Je lis dans Matthieu 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, donc sous Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. » Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque Christ va revenir, juste avant, les hommes vont être dans une certaine insouciance. En tout cas, ceux qui n'ont pas la foi. Ils vont dire, continuons à vivre, à faire ce qui nous plaît, tout va bien, il n'y a pas de malheur, il y a des malheurs, mais on va s'en sortir, vous allez voir. Et c'est bien d'être positif, mais si c'est positif aveugle, c'est pas bon. Il faut être réaliste et avoir les yeux ouverts, surtout avec la parole de Dieu. Et il va y avoir un jugement sur la terre. Et il ne faut pas être insouciant. C'est pas le moment d'être insouciant, c'est le moment d'être sérieux. Ça n'empêche pas d'être joyeux, de rire. Il faut que nos enfants aussi s'amusent, jouent. On ne veut pas imposer à nos enfants une sorte de lourdeur, un poids qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais nous, les adultes, on doit être sérieux. On doit être conséquent dans notre foi. C'est fini de jouer à l'église ou aux chrétiens. Il faut être un chrétien. Il faut être une église de Jésus-Christ. Alors, comment vivre dans cette époque troublée? Il y a un passage qui vraiment m'a touché particulièrement cette semaine. C'est Romains chapitre 13. J'aimerais qu'on regarde l'épître de Paul aux Romains chapitre 13. Et il commence avec l'ordre et l'obéissance. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il est clair là, dans ce passage, hein, qu'il faut obéir aux autorités. Mais quand on est dans des moments difficiles, on peut paniquer ou on peut se révolter. On peut en vouloir au gouvernement, on peut en vouloir aux autorités, dire « Non, moi je vais me sauver tout seul, je vais m'en sortir tout seul » et commencer une révolte, une révolution. Et c'est curieux, mais Jésus et les apôtres n'ont jamais appelé leurs disciples à la révolution. Jésus aurait pu le faire. Il y avait les occupants romains qui étaient là. Il aurait pu dire « Allez les frères, on va se battre pour chasser les Romains ». Jésus n'a jamais fait une chose pareille, n'a jamais dit une chose pareille. Même un jour, on a voulu le faire roi, en disant « Tu seras notre roi et on va bouter les Romains dehors ». Et Jésus a refusé d'être le roi. Il n'était pas venu pour ça. Et les apôtres, pareil, lorsqu'il y a eu beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y avait des églises immenses de plusieurs milliers de personnes, ils auraient pu former une force de résistance contre les païens romains. Mais Paul, il écrit là, aux Romains justement, ceux qui étaient à Rome, au cœur de l'Empire, là où il y avait le César, hein, le Sénat romain, etc., il a dit « Soyez soumis aux autorités ». Et il ne faut pas tomber dans l'anarchie, le chaos, la révolte. Le chrétien n'est pas un révolté. Le chrétien est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est vrai que la Bible nous appelle dans certaines conditions à ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est-à-dire, si on nous empêche de pratiquer notre foi, si le gouvernement dit « on ferme les églises », vous n'avez plus le droit de prier ou de parler de Jésus ou de dire ce que la Bible dit, alors là, on va désobéir. Mais on ne va pas chercher à imposer notre foi au gouvernement ou à notre société. Je suis fier d'être un baptiste, même si je suis premièrement un chrétien, parce que les baptistes sont des chrétiens évangéliques qui ont toujours milité pour la liberté de conscience. Nous voulons que tout le monde ait le droit de croire ce qu'il veut. On n'impose pas la foi. On la proclame, on la prêche, mais on ne l'impose à personne. Par hasard, dans la voiture hier, je suis tombé sur Radio Courtoisie. Peut-être certains la connaissent. Et le sujet, c'était la liberté de conscience dans l'histoire. Et j'ai été effaré de ce que j'ai entendu. Ils ont dit, et je savais ce qu'ils ont dit, j'avais, en étudiant l'histoire, que les papes ont toujours été contre la liberté de conscience. Il n'y a que l'Église catholique qui est la vraie Église, et on ne peut pas croire autre chose que ce que l'Église catholique a décidé. Et ils ont dit, c'est à Vatican II que ça a été modifié. Vatican II, c'est les années 1960, hein, c'est tout récent. Que là, ils ont accepté qu'il puisse y avoir une liberté de conscience, mais ils ont dit, attention, c'est pas vraiment la liberté de conscience, c'est la tolérance, c'est différent. Nous tolérons que des gens croient des choses mauvaises, différentes de l'Église. Mais si l'Église devait reprendre le pouvoir, nous voudrions qu'elle impose à nouveau. Alors j'ai dit, c'est pas possible, ils n'ont rien compris. Ils veulent imposer encore leur foi. Ils n'ont pas compris que ça fait fuir les gens de la foi. Jésus n'est pas venu imposer son message, il est venu donner sa vie même. Hein. Alors nous devons obéir aux autorités, même si les autorités ne sont pas parfaites, évidemment. Vous pensez qu'elles étaient parfaites au temps des Romains ? Et on ne peut pas exiger des politiciens qui soient parfaits, ce sont des hommes et beaucoup ne sont pas même dans la foi. Mais nous devons garder cet ordre. Dans l'ordre, c'est là que Dieu peut agir. Imaginez qu'on décide de désobéir aux autorités dans tous les domaines. Prenons par exemple le code de la route. Qu'est-ce qui se passe si plus personne n'obéit au code de la route? Si le feu rouge, c'est juste pour décorer les rues, c'est plus pour dire qu'il faut s'arrêter. Mais il y aurait des accidents, des morts, ce serait le chaos, on ne pourrait plus sortir en voiture, c'est même pas la peine de prendre sa voiture. Le code de la route nous protège, les lois nous protègent, les autorités nous protègent. C'est vrai qu'il y a peut-être trop de lois, il y a des mauvaises lois, on sait tout ça, il y a trop d'impôts. Mais le chrétien, lui, doit rester soumis par conscience. Il y a un état d'urgence qui a été voté par les deux chambres de la France, les députés et les sénateurs. L'état d'urgence, ça veut dire que la police a le droit de faire un peu ce qu'elle veut. Elle n'a plus besoin d'un juge, d'un procureur. Elle peut faire une perquisition. Elle peut vous arrêter dans la rue. Toi, montre-moi tes papiers. On te fouille. Elle a tous les droits. Est-ce qu'on a à craindre cet état d'urgence? Si je n'ai rien à me reprocher, j'ai rien à craindre. C'est quand j'ai quelque chose à me reprocher. Ceux qui tremblent là, c'est les dealers de drogue. Ceux-là, ils ne sont pas contents avec l'état d'urgence, évidemment, parce que la police peut débarquer, alors qu'avant, la police les laissait faire leur petit trafic tranquille. Et donc, l'autorité est utile pour faire respecter le bien. Et on n'a pas à craindre l'autorité, on doit la respecter. C'est pareil pour nos enfants. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants disent « Mais qui tu es, toi, pour me donner des ordres ?»« Attends, mais toi, qui tu es pour me dire que qui je suis ?» Tu es mon enfant, tu dois obéir à tes parents. Mais quand ça saute, tous ces verrous sautent, il n'y a plus d'autorité, c'est l'anarchie, le chaos. Et là, c'est le malheur. Hein. Il vaut mieux un peu plus de sécurité que l'anarchie. Ici, il donne un exemple, il parle des magistrats et il dit « Vous payez des impôts, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. » C'est un sujet très délicat. Partout dans le monde, mais en France en particulier, impôt, c'est une sorte de juron, de mot vulgaire. Et de dire qu'il faut payer ses impôts, ça fait mal. Ça fait mal. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et par exemple, si nous étions tous en train de travailler au noir sans déclarer